Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix d'Indonésie en français. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette petite heure de programme dédiée à l'Indonésie. Nous commençons notre programme avec le journal, le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et Norvège renforcent la coopération bilatérale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré « La compréhension mutuelle est la clé du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Indonésie et Norvège ». L'Indonésie a signé la coopération du pétrole et du gaz avec l'Iran. Le vice-président Yusuf Kalla a assisté au Forum économique mondial sur l'ASEAN à Kuala Lumpur. L'ambassadeur d'Indonésie et les ulémas égyptiens discutent des idées du secrétariat de fatwa international. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien encourage la coopération bilatérale avec le gouvernement norvégien. Cela a été révélé dans la deuxième réunion de la commission mixte de coopération bilatérale entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno L.P. Marsudi, et son homologue norvégien, Bors Brende, lundi à Jakarta. Dans une conférence de presse après une rencontre avec le ministre Bors Brende, la ministre Retno Marsudi a expliqué que les deux pays avaient convenu de renforcer les relations bilatérales dans le domaine du commerce et de l'investissement. Selon elle, l'Indonésie a invité beaucoup d'investisseurs norvégiens à investir dans ce pays, principalement pour soutenir le développement des infrastructures et maritimes. Dans le domaine du commerce et de l'investissement, nous avons enregistré une augmentation d'environ 300 millions de dollars américains au cours de 2015. Nous voyons l'existence de l'opportunité d'améliorer la coopération commerciale. L'Indonésie encourage les investisseurs de la Norvège à venir dans ce pays pour soutenir le développement du secteur maritime et des infrastructures dans le pays. Outre le commerce et l'investissement, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de la coopération dans le secteur de l'environnement, de la pêche et maritime. La ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie a encore la menace des incendies de forêt et les émissions de gaz à effet de serre. Elle encourage le renforcement de la coopération entre l'Indonésie et la Norvège dans le cadre de la RED+. En outre, les deux pays ont également discuté de la coopération du secteur maritime. L'Indonésie et la Norvège ont convenu d'augmenter la coopération dans le secteur, entre autres pour lutter contre la pêche illégale et le renforcement des capacités des ressources humaines. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno L.P. Marsudi, a déclaré « La compréhension mutuelle et la coopération étaient la clé du dialogue durable sur les droits de l'homme entre l'Indonésie et la Norvège ». C'est ce qu'a affirmé Madame Retno L.P. Marsudi lors de l'ouverture du deuxième dialogue des droits de l'homme entre les deux pays au ministère des Affaires étrangères dans une conférence de presse à Jakarta, citée par Antara mercredi. Le ministre Retno Marsudi a souligné que maintenant le monde faisait face au plus grand défi en raison de l'échec de la démocratie qui a conduit à l'intolérance, l'existence de l'extrémisme avec la violence et la radicalisation. Elle espère qu'à travers ce dialogue, les deux pays peuvent renforcer la collaboration au niveau national, régional et multilatéral dans le progrès et la protection des droits de l'homme. Cependant, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Boris Brende, dans son discours, a confirmé que le dialogue sur les droits de l'homme entre l'Indonésie et la Norvège était une chose fière et il espère d'intensifier la coopération. Il considère l'Indonésie comme l'une des forces de la démocratie dans le monde et aussi comme un pays qui joue un rôle clé dans l'ASEAN. Certaines coopérations des droits de l'homme entre les deux pays ont été discutées dans plusieurs groupes de travail, tels que le groupe de travail des droits de l'enfant, le groupe de travail militaire et de police, ainsi que des groupes de travail entre les croyances et les cultures tolérantes. Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, M. Sudirman Said, a dirigé la délégation indonésienne dans une rencontre avec le ministre iranien du pétrole, Bejan N. Zangane, et les autorités concernées pour renforcer la coopération avec l'Iran. Cette réunion a généré des accords importants entre PT Pertamina et la Compagnie nationale iranienne des pétroles, ou NIOC, à savoir la signature de la coopération de l'approvisionnement du gaz de pétrole liquéfié de l'Iran à l'Indonésie. M. Sudirman Said a affirmé qu'il y avait une nouvelle étape dans la signature de l'approvisionnement du GPL de NIOC à Pertamina effectuée lundi à Jakarta. Il a ajouté qu'il y avait trois points importants qui devraient être soulignés lors de la réunion bilatérale entre le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Indonésie et le ministre du Pétrole de l'Iran. Ces trois points sont l'Indonésie encourage à entrer dans l'industrie en amont, dans ce cas, à faire l'exploration pétrolière en Iran, et l'Iran l'a bien accueilli. Et puis l'Iran voudrait apprendre de l'Indonésie sur la façon de la gestion de GPL, parce que GPL en Iran est encore à l'étape du développement de l'infrastructure. Et la troisième, l'Indonésie et l'Iran ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou l'OPEP. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie à l'Égypte, Helmi Fauzi, a rencontré les ulémas égyptiennes et ont discuté des questions, entre autres la création du secrétariat de la fatwa internationale. Lors d'une réunion tenue au bureau Darul Ifta, ou l'institution de fatwa Égypte, qui a eu lieu au Caire le 30 mai 2016, l'ambassadeur Helmi, bien apprécié l'initiative des grands savants de l'Égypte, à établir le secrétariat de la fatwa internationale. Selon l'ambassadeur Helmi, la création du forum est très importante dans la dynamique de la politique internationale actuellement. Le grand savant Dr. Sauki Abdul Karim Alam, dans cette réunion, souhaite que l'Indonésie puisse participer au secrétariat international de fatwa. Il souhaite également qu'il y ait des ulémas des savants musulmans indonésiens qui ont été désignés pour faire partie de ce forum. Selon le plan, les membres du forum comprennent les ulémas et les érudits musulmans du monde entier. À l'occasion, l'ambassadeur Helmi a également remercié aussi pour les bourses Darul Ifta aux 40 étudiants indonésiens chaque année pour obtenir une formation de faire des fatwas. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla est prévu pour assister au Forum économique mondial, ou WEF, sur l'ASEAN tenu du 1er juin au 2 juin 2016 à Kuala Lumpur, la Malaisie. Selon le plan, l'arrivée du vice-président et son entourage à l'aéroport Sultan Abdul Aziz à Kuala Lumpur a été accueillie par les autorités malaisiennes. l'ambassadeur de l'Indonésie en Malaisie, M. Herman Prayitno, l'ambassadeur de la Malaisie en Indonésie, Dato Sri Zahrain, Mohamed Hashim bin Dato Zainuddin, Mohamed Hashim et l'attaché de la défense indonésien en Malaisie. Le vice-président également prévu de livrer son discours à la séance plénière d'ouverture devant des dirigeants des pays de l'ASEAN, entre autres le premier ministre malais. Le Forum économique mondial sur l'ASEAN est la première des réunions régionales avec un accent particulier sur l'ASEAN. Il est le forum de rencontre pour les dirigeants politiques, l'homme d'affaires, des universités et d'autres membres de la communauté pour discuter des divers ordres du jour, des défis et des solutions régionales et mondiales. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La Corée du Nord lance une autre missile ». Le président américain Barack Obama, dans le sommet du G7 qui a eu lieu au Japon récemment, a déclaré que la Corée du Nord était une grande préoccupation pour tous. Ses commentaires sont venus après la montée des tensions sur la péninsule coréenne, après les essais de missiles par la Corée du Nord. Selon le président américain, la préoccupation ne provoque pas directement le risque dans un proche avenir. Mais le gouvernement du régime étant instable et isolé, doivent être donnés le plus d'attention. L'enquête du président Obama est prouvée correcte. Le matin, à la fin de mai 2016, la Corée du Nord a lancé une missile de moyenne portée à la côte est du pays. Selon des ressources militaires de la Corée du Sud, la Corée du Nord a procédé à un tir d'essai de missiles, mais a échoué. Mais quelle est la cause et la source de l'échec? L'armée sud-coréenne a déclaré qu'elle étudiait encore cette question. À l'est de la péninsule coréenne, le Japon a eu des informations sur le plan de lancement de missiles de la Corée du Nord et déployer ses forces dans la région qui est susceptible de devenir une cible. La tension dans la région a augmenté après le quatrième lancement de missiles par la Corée du Nord au début de cette année. Le lancement en janvier a été suivi par le lancement d'autres missiles et satellites. Selon les informations de l'agence de presse de la Corée du Sud, Yonhap, la Corée du Nord prétendument a lancé un missile Musadan aurait une portée plus de 2500 km. En théorie, le missile est capable d'atteindre le territoire japonais. Prétendument, le même missile a été lancé en avril dernier. Avec cet échec, pour quelques fois, la Corée du Nord n'a pas réussi à lancer son missile. En rapport avec le lancement, selon les médias japonais, l'armée japonaise avait ordonné à ses destroyers pour tirer des missiles qui peuvent être dirigés vers ce pays. Mais l'armée japonaise n'a pas commenté à propos de tous les rapports des médias sur l'ordre. Concernant le développement dans la péninsule coréenne aujourd'hui, il faut donner l'attention aux efforts de la Corée du Nord. Ce pays possède des idées pour développer la technologie militaire. Si la Corée du Nord a lancé avec succès ses missiles de moyenne portée, cela est la porte pour le développement des missiles à longue portée qui peut atteindre la région plus large. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Voici l'Indonésie d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec l'événement le 1er juin 1945, la naissance de Pancasila. Pancasila est la base de l'idéologie de l'État indonésien. La naissance de Pantachila est le titre d'un discours prononcé par Sukarno le 1er juin 1945 dans le procès de Kokitsu Junbi Kosakai où le comité pour l'investigation sur les efforts de préparation de l'indépendance de l'Indonésie. Dans ce discours, le concept est la formation initiale de Pantachila comme la base de l'Indonésie indépendante a été prononcé pour la première fois par Sukarno. Sukarno a proposé le concept de la base de l'Indonésie indépendante, à savoir le nationalisme, l'internationalisme ou l'humanité, le consensus ou la démocratie, le bien-être social et la divinité. En 1947, la parole Insinyur Sukarno contenant la formation initiale du Pancasila était enregistrée. L'ancien président de BPUPKI, Dr. Raji Manwe Diodinirat, a dit que le concept de base d'un pays qui a été présenté par Insinyur Sukarno le 1er juin 1945 est désigné comme la naissance de Pancasila. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, le lancement de CNN le 1er juin 1980. Le magnat de l'audiovisuel Ted Turner lance dans un studio Atlanta, Georgia, Cable News Network, la première chaîne télévisée d'information en continu. Le succès est tel que Ted Turner créera CNN International en 1985. La spectaculaire couverture en direct de la guerre du Golfe en 1991 sera suivie par des millions de téléspectateurs dans le monde. Pour les réseaux internationaux, CNN a 26 représentants d'organismes, y compris l'Indonésie, et des émissions peuvent être appréciées dans 212 pays dans le monde. Serge Tard, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces amis monde entier, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième longtemps, bonsoir. Voici donc la mise au point sur l'environnement et pour le titre, le lac Toba est développé avec concept écologique. Le lac Toba dans la province de Sumatra du Nord a été désigné comme l'une des 10 destinations touristiques nationales outre Bali qui est en train d'être développée par le gouvernement de l'Indonésie. Après avoir fondé l'agence de l'autorité du lac Toba, le gouvernement s'efforce de développer cette zone touristique impliquant la plupart des entreprises publiques. 28 mai dernier, la ministre des entreprises publiques, Rini Sumarno, a tenu une réunion de coordination avec la direction d'un certain nombre d'entités contrôlées par l'État liées au développement de cette zone touristique à Prapat, près du lac Toba. À cette occasion, un certain nombre d'entreprises publiques ont fourni la responsabilité sociale des entreprises, CSR, pour soutenir l'amélioration de lac Toba comme l'une des principales destinations touristiques en Indonésie. Certaines assistances sont fournies par, entre autres, PT Perusahaan Gas Negara, PGN, et PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo, qui vont aider à améliorer le village touristique Tomok, situé à l'île Samosir, Sumatra du Nord. Dans la même occasion, la ministre Rini Sumarno et les dirigeants des entreprises publiques ont planté des abeilles au bord du lac Toba. Selon elle, l'abeille est la source de la vie qui est très importante, donc la plantation d'abeilles doit être aussi une culture dans les entreprises d'État. La plantation d'arbres ou les sauvegardes environnementales montrent l'engagement et la synergie des entreprises d'État dans le secteur de l'environnement et du tourisme. Tout cela vise à soutenir le concept de la responsabilité du tourisme qui est appliqué dans le développement de la destination touristique du lac Toba. Avec ce concept, le développement du lac Toba devait être respectueux de l'environnement et prêter attention à la capacité de charge de l'environnement. Le lac Toba a une longueur de 100 km et 30 km de large, ce qui en fait le plus grand lac volcanique dans le monde et le deuxième plus grand lac du monde après le lac Victoria en Afrique. Avec une profondeur de 500 mètres, le lac Toba est l'un des 10 lacs les plus profonds du monde. Avec une superficie de 640 km², l'île de Samosir se trouve au milieu du lac Toba, qui est une île volcanique avec une superficie égale à la superficie de Singapour. Le lac Toba a une longue histoire qui a influencé le voyage et l'évolution des êtres humains, les animaux et les plantes dans le monde. L'explosion volcanique de Toba est arrivée trois fois, à savoir il y a 900 000 ans, il y a 500 000 ans et il y a 75 000 ans. C'est une condition unique qui ne peut être trouvée dans de nombreux endroits dans le monde. Actuellement, il y a au moins un total de 45 sites géographiques répartis sur quatre zones, à savoir le caldeira de Geoporcia, le caldeira Harangaul, le caldeira Sibandang et Samosir. Mais le développement du tourisme dans le lac Toba n'est pas seulement en termes de sa valeur géologique, mais aussi la richesse de la flore et de la faune, ainsi que les valeurs architecturales et les nobles valeurs de la culture de Batak. C'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le gouvernement indonésien encourage la coopération bilatérale avec le gouvernement norvégien. Cela a été révélé dans la deuxième réunion de la commission mix de coopération bilatérale entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno L.P. Marsudi, et son homologue norvégien, Bors Brende, lundi à Jakarta. Dans une conférence de presse après une rencontre avec le ministre Bors Brende, la ministre Retno Marsudi a expliqué que les deux pays avaient convenu de renforcer les relations bilatérales dans le domaine du commerce et de l'investissement. Selon elle, l'Indonésie a invité beaucoup d'investisseurs norvégiens à investir dans ce pays, principalement pour soutenir le développement des infrastructures et maritimes. Dans le domaine du commerce et de l'investissement, nous avons enregistré une augmentation d'environ 300 millions de dollars américains au cours de 2015. Nous voyons l'existence de l'opportunité d'améliorer la coopération commerciale. L'Indonésie encourage les investisseurs de la Norvège à venir dans ce pays pour soutenir le développement du secteur maritime et des infrastructures dans le pays. Outre le commerce et l'investissement, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de la coopération dans le secteur de l'environnement, de la pêche et maritime. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie a encore la menace des incendies de forêt et les émissions de gaz à effet de serre. Elle encourage le renforcement de la coopération entre l'Indonésie et la Norvège dans le cadre de la RED+. En outre, les deux pays ont également discuté de la coopération du secteur maritime. L'Indonésie et la Norvège ont convenu d'augmenter la coopération dans le secteur, entre autres pour lutter contre la pêche illégale et le renforcement des capacités des ressources humaines. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno L.P. Marsudi, a déclaré « La compréhension mutuelle et la coopération étaient la clé du dialogue durable sur les droits de l'homme entre l'Indonésie et la Norvège ». C'est ce qu'a affirmé Mme Retno L.P. Marsudi lors de l'ouverture du deuxième dialogue des droits de l'homme entre les deux pays au ministère des Affaires étrangères dans une conférence de presse à Jakarta, citée par Antara mercredi. Le ministre Retno Marsudi a souligné que maintenant le monde faisait face au plus grand défi en raison de l'échec de la démocratie qui a conduit à l'intolérance, l'existence de l'extrémisme avec la violence et la radicalisation. Elle espère qu'à travers ce dialogue, les deux pays peuvent renforcer la collaboration au niveau national, régional et multilatéral dans le progrès et la protection des droits de l'homme. Cependant, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Boris Brende, dans son discours, a confirmé que le dialogue sur les droits de l'homme entre l'Indonésie et la Norvège était une chose fière et il espère d'intensifier la coopération. Il considère l'Indonésie comme l'une des forces de la démocratie dans le monde et aussi comme un pays qui joue un rôle clé dans l'ASEAN. Certaines coopérations des droits de l'homme entre les deux pays ont été discutées dans plusieurs groupes de travail, tels que le groupe de travail des droits de l'enfant, le groupe de travail militaire et de police, ainsi que des groupes de travail entre les croyances et les cultures tolérantes. Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, M. Sudirman Said, a dirigé la délégation indonésienne dans une rencontre avec le ministre iranien du pétrole, Bijan N. Zangane, et les autorités concernées pour renforcer la coopération avec l'Iran. Cette réunion a généré des accords importants entre PT Pertamina et la Compagnie nationale iranienne des pétroles, ou NIOC, à savoir la signature de la coopération de l'approvisionnement du gaz de pétrole liquéfié de l'Iran à l'Indonésie. M. Sudirman Said a affirmé qu'il y avait une nouvelle étape dans la signature de l'approvisionnement du GPL de NIOC à Pertamina effectuée lundi à Jakarta. Il a ajouté qu'il y avait trois points importants qui devraient être soulignés lors de la réunion bilatérale entre le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Indonésie et le ministre du Pétrole de l'Iran. Ces trois points sont l'Indonésie encourage à entrer dans l'industrie en amont, dans ce cas, à faire l'exploration pétrolière en Iran, et l'Iran l'a bien accueilli. Et puis l'Iran voudrait apprendre de l'Indonésie sur la façon de la gestion de GPL, parce que GPL en Iran est encore à l'étape du développement de l'infrastructure. Et la troisième, l'Indonésie et l'Iran ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou l'OPEP. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie à l'Égypte, Helmi Fauzi, a rencontré les ulémas égyptiens et ont discuté des questions, entre autres la création du secrétariat de la fatwa internationale. Lors d'une réunion tenue au bureau Darul Ifta, ou l'institution de fatwa Égypte, qui a eu lieu au Caire le 30 mai 2016, l'ambassadeur Helmi, bien apprécié l'initiative des grands savants de l'Égypte, à établir le secrétariat de la fatwa internationale. Selon l'ambassadeur Helmi, la création du forum est très importante dans la dynamique de la politique internationale actuellement. Le grand savant Dr. Sauki Abdul Karim Alam, dans cette réunion, souhaite que l'Indonésie puisse participer au secrétariat international de fatwa. Il souhaite également qu'il y ait des ulémas des savants musulmans indonésiens qui ont été désignés pour faire partie de ce forum. Selon le plan, les membres du forum comprennent les ulémas et les érudits musulmans du monde entier. À l'occasion, l'ambassadeur Helmi a également remercié aussi pour les bourses Darul Ifta aux 40 étudiants indonésiens chaque année pour obtenir une formation de faire des fatwas. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla est prévu pour assister au Forum économique mondial, ou WEF, sur l'ASEAN tenu du 1er juin au 2 juin 2016 à Kuala Lumpur, la Malaisie. Selon le plan, l'arrivée du vice-président et son entourage à l'aéroport Sultan Abdul Aziz à Kuala Lumpur a été accueilli par les autorités malaisiennes. L'ambassadeur de l'Indonésie en Malaisie, M. Herman Prayitno, l'ambassadeur de la Malaisie en Indonésie, Datuk Sri Zahrain, Muhammad Hashim bin Datuk Zainuddin, Muhammad Hashim, et l'attaché de la défense indonésien en Malaisie. Le vice-président est également prévu de livrer son discours à la séance plénière d'ouverture devant des dirigeants des pays de l'ASEAN, entre autres le Premier ministre malais. Le Forum économique mondial sur l'ASEAN est la première des réunions régionales avec un accent particulier sur l'ASEAN. Il est le forum de rencontre pour les dirigeants politiques, l'homme d'affaires, des universités et d'autres membres de la communauté pour discuter des divers ordres du jour, des défis et des solutions régionales et mondiales. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à la province de Kalimantan occidentale. Chers auditeurs, la province de Kalimantan occidentale a une superficie de 146 807 km², cependant environ 42,32% de cette étendue totale est la forêt. Grâce à des vastes forêts, Kalimantan occidentale a beaucoup de tourisme naturel exotique potentiel. Lando et la cascade Rombodait. Cette destination touristique est connue comme la cascade à 7 niveaux. La cascade Rombodait est située dans le district Air Besar, la préfecture Landak, ou environ 300 km de la ville de Pontianak. Serviteur, l'accès à la cascade de Rombodait est très difficile. Les voyageurs doivent escalader le sentier vallonné. À ce sentier, il y a beaucoup d'arbres à l'âge de dizaines, même centaines d'années. Les arbres sont alignés étroitement qui forment une forêt tropicale. Pour les touristes qui aiment l'aventure, le chemin vers la cascade Rombodait est très agréable parce que cette route peut être utilisée pour la randonnée, le trekking ou même pour les chemins off-road. De la ville de Pontianak à Ngabang, la capitale de la préfecture Landak, vous pouvez utiliser les transports en commun comme les autobus et les véhicules de l'agence de voyage ou les véhicules privés. Ensuite, votre voyage est continué au district Air Besar en utilisant une voiture ou une moto à environ 30 km. Il prend le temps d'environ 30 minutes à pied pour passer la route glissante et boueuse ainsi que les routes de haut en bas comme une colline. Chers auditeurs, la cascade Rombodait se compose de 7 niveaux. Au premier niveau, la cascade a une hauteur d'environ 60 mètres, tandis que le deuxième au septième niveau a une hauteur d'environ 20 à 30 mètres. Le type et la forme de la cascade est différent chaque le niveau. Il y avait la cascade évasée et il y a aussi une forme de petite terrasse. C'est gratuit d'entrer à cette destination touristique. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La cascade Rombodait ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Apprendre l'indonésien ». Le sujet pour ce soir est « Hobby » ou en français « Le passe-temps ». D'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Hobby, hobby. En français, le passe-temps. Membaca, membaca. En français, lire. Buku komik. En français, bande dessinée. Koleksi. En français, collection. Sangat banyak. En français, de très nombreux. Sekarang. En français, maintenant. Toko buku. En français, librairie. Membeli. En français, acheter. Buku pelajaran. En français, manuel scolaire. Nanti. En français, plus tard. Pinjam. En français, emprunter. Tentu saja. En français, bien sûr. Cari. En français, chercher. Buku. En français, livre. Perlu. En français, besoin. Pelan. En français, lentement. Di sini. En français, ici. Buku novel. En français, roman. Chers amis, ensuite, je vais présenter un exemple d'une conversation ayant pour titre « hobby » ou en français « le passe-temps ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois, et vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Anna A et Nita B à la librairie. A. Apakah kamu masih suka membaca komik? A. Apakah kamu masih suka membaca komik? En français, est-ce que vous aimez encore lire des bandes dessinées? B. Tentu saja. Koleksi buku komik saya sangat banyak. Tentu saja. Koleksi buku komik saya sangat banyak. En français, bien sûr, j'ai une grande collection de bandes dessinées. A. Apakah kamu akan ke toko buku untuk membeli buku komik? Apakah kamu akan ke toko buku untuk membeli buku komik? En français, est-ce que vous allez à la librairie maintenant pour acheter des bandes dessinées? B. Ya, saya juga akan membeli buku pelajaran. Ya, saya juga akan membeli buku pelajaran. En français, oui, je veux également acheter des manuels scolaires. A. Apakah saya boleh meminjam buku komikmu? A. Apakah saya boleh meminjam buku komikmu? En français, est-ce que je peux prêter vos bandes dessinées? B. Tentu saja. En français, bien sûr. Sekarang kita mencari buku yang kita perlukan. Sekarang kita mencari buku yang kita perlukan. En français, maintenant nous chercherons des livres que nous avons besoin. A. Kamu bisa bertanya pada pegawai toko buku untuk menemukan buku. A. Kamu bisa bertanya kepada pegawai toko buku untuk menemukan buku. En français, vous pouvez demander aux employés de la librairie pour trouver des livres. Dan saya di sini melihat-lihat buku novel. Dan saya di sini melihat-lihat buku novel. En français, et je suis ici pour chercher les romans. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son. Programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis dans quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical pour l'édition de vendredi. Ce soir, nous vous introduisons une chanteuse pop, Emilia Contessa. Bon, pour animer notre soirée, allez d'abord écouter la chanson intitulée « Vent de novembre » chantée par Emilia Contessa. Bonne écoute.
Bawa kisah.
Serviteur, c'était la première chanson d'Emilia Contessa intitulée « 20 de novembre ». Emilia Contessa, née en 1957, rapportée par le magazine The Zeeuwik en 1975, était surnommée comme « Lionne de stage asiatique » car elle pouvait animer et faire vivant le stage de tour musical aux spectateurs à l'étranger ou en Indonésie. Grâce au soutien de sa famille, en particulier sa mère, Emilia Contessa a participé beaucoup de festivals depuis sa petite et elle a remporté beaucoup de prix dans ce festival, surtout en province de Java de l'Est. Depuis ça, elle a du grand succès dans le monde musical en Indonésie ainsi à l'étranger. Bon, chers amis, allez écouter la suite chanson d'Emilia Contessa intitulée « Bonne écoute ». Chers fidèles amis, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse pop, Emilia Contessa. Non seulement le magazine The Zeeuwik, New York Times l'a aussi nommé comme 5 grands chanteurs plus populaires dans le monde et a obtenu les bourses pour continuer ses études. Mais elle n'a pas pris ses bourses. Après son succès dans la musique, Emilia Contessa joue dans le grand écran. Elle joue dans des films. Au fil du temps, Emilia Contessa se retire du monde musical et le film. Bon, chers fidèles amis, avant de terminer notre programme, écoutons donc sa dernière chanson intitulée « Layu sebelum berkembang ». Merci de votre fidélité et attention. Bonne écoute et au revoir. Thank you.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine musical de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Ainsi, nous terminons notre émission pour ce soir. Au revoir à tous, on se retrouve demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.